en séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Madame et Messieurs les académiciens, Mesdames et Messieurs, traiter de ce bon usage de l'histoire selon Vilfredo Pareto relève d'une sorte de provocation, car ledit Pareto ne fut nullement historien et n'a signé aucun ouvrage traitant de près ou de loin de la connaissance historique, mais son itinéraire intellectuel l'a conduit à s'intéresser aux faits historiques, et ces faits, il les a traités en véritable historien. C'est ce que je vais essayer d'exposer sommairement, en rappelant que Pareto est d'abord un économiste. C'est l'auteur, en 1896-17, du cours d'économie politique, publié directement en français d'ailleurs, à Paris, puis du manuel d'économie politique, qui paraît en 1906, avec une traduction française qu'il enrichit en 1909. Et cet économiste est un sociologue qui, en 1916, donne le fameux traité de sociologie générale qui est réputé, d'après tous les parétologues ou tous ceux qui se sont souciés de l'œuvre de Vilfredo Pareto, je songe à Raymond Aron, à Giovanni Busino, à Julien Freund, à tous, n'est-ce pas, ce traité est apparu comme tératologique et sa compacité, pour ne pas dire son opacité, se sont trouvées à plusieurs reprises, entre guillemets, dénoncées. Mais cet économiste, ce sociologue, et bientôt politologue, puisqu'en 1921 paraît un ouvrage très important pour la sociologie politique et même pour la science politique, « La transformation de la démocratie », cet économiste, sociologue, politologue a éprouvé de fortes déconvenues au début de sa carrière lorsque... À l'issue de ses études et sortant en 1869, il a 21 ans, de l'école polytechnique de Turin, après avoir soutenu une thèse sur l'équilibre des corps solides, il se propose de faire triompher la raison, ou ce qu'il croit être la raison, en défendant le libre-échange. Et ce personnage qui... a d'abord été un mathématicien, et tout au long de sa vie, il sera en correspondance avec des personnes comme Peano ou comme Volterra, Vito Volterra. Donc ce mathématicien, qui croit en la raison, et qui est tout armé, n'est-ce pas, du raisonnement mathématique, devient membre de la Société Adam Smith de Florence. Il est le directeur des chemins de fer de Toscane. C'est donc un ingénieur qui s'imagine que les comportements humains, que les conduites sociales sont régies par la raison. Or, il s'avise assez rapidement de la béance qui existe entre cette logique et quasiment mathématique et la logique que je qualifierais de sociale, qui n'est point du même ordre, ce qui l'amène à étudier des ouvrages qui sont déclarés, inscrits en sciences sociales ou qui relèvent de disciplines de sciences humaines et sociales. Il se tourne vers le droit, l'histoire, bien sûr, toutes sortes de travaux, y compris de travaux de théologiens et de juristes, car j'aime à le souligner, Pareto est sans doute un des derniers grands encyclopédistes. Il couvre tous les domaines du savoir, des mathématiques à la théologie. Donc il se tourne vers cette littérature qui n'est pas mathématique et il y prélève de nombreux éléments qui lui permettront de méditer sur l'évolution sociale. L'on voit que dès le les premières pages du traité de sociologie générale, Pareto rencontre l'histoire. Et, si j'ose dire, il réfléchit sur ce qu'est la sociologie et il pose la question, n'est-elle pas une philosophie de l'histoire? Est-ce une discipline autonome? Mais il passe rapidement, n'est-ce pas, outre à ces discussions oiseuses et s'applique simplement et d'emblée à rompre avec ce qu'il appelle la sociologie dogmatique. Il est résolument opposé à Auguste Comte, à qui il reproche d'avoir reproduit purement et simplement le discours sur l'histoire universelle de Bossuet. Par ailleurs, il s'est détaché de toutes les certitudes, il ne se met pas en quête d'essence, il estime que l'on peut rechercher l'exactitude, mais que l'on n'obtiendra jamais une certitude totale. Il se méfie à cet égard des lois scientifiques, qu'il déclare n'être que des hypothèses faites sur des uniformités expérimentales, et ces lois scientifiques, dit-il, ne sont même pas nécessaires. On reconnaît ici, bien sûr, l'auteur de la démarche, ou plus exactement le concepteur de cette démarche des approximations successives, qui est solidaire de la mise au jour de la mutuelle dépendance qu'entretiennent les phénomènes sociaux. Une série de distinctions nous est proposée d'entrée dans ce traité, entre le nom et la chose, le phénomène objectif et le phénomène subjectif, les actions logiques et non logiques, j'y reviens dans un instant, et surtout l'utilité sociale d'une théorie et la vérité expérimentale. Et l'on voit très bien que Pareto minore cette vérité expérimentale à laquelle il tient et à laquelle il s'accroche dans ses études d'économie pure, mais qu'il relativise fortement s'agissant de sciences sociales, où l'utilité d'une théorie même fausse peut être importante. Ce à quoi il renonce, c'est à la visée totalisante. Il estime que lorsque l'on étudie un ensemble de faits, il reste toujours des résidus. Par conséquent, on n'aura jamais la maîtrise totale d'un ensemble, j'entends maîtrise conceptuelle. Et ce parti pris l'amène à célébrer, si j'ose dire, les faits, à les exalter et à déclarer qu'il ne veut s'en tenir qu'aux faits. Ce qu'il vise, c'est l'accord avec les faits. Je pense qu'il est en avance, d'une certaine façon, sur une nouvelle histoire qui a préconisé, à juste titre d'ailleurs, l'occupation totale d'un territoire que ne divisera plus la frontière qui sépare le noble et l'ignoble. Parce que Pareto se décide à accueillir tous les faits. Ces faits, il les distribue en trois classes, ce qui est tout à fait intéressant et ingénieux. Il parle d'une aristocratie des faits qu'il est louable de citer et avantageux de mentionner. Il y a une classe moyenne en dessous, d'un point différent. Et puis, il y a un troisième cercle qui est garni des faits de basse classe. Des choses, n'est-ce pas, qu'il est de bon ton d'écarter. Donc il ne veut pas opérer une classification du matériel historique ou du matériau historique sur des critères de bienséance, et il déclare « Nous accueillons tous les faits, quels qu'ils soient, pourvu que, directement ou indirectement, ils puissent nous conduire à la découverte d'une uniformité. » Les sources auxquelles il puise sont diverses, et il les rappelle en s'appuyant sur de Morgan, il cite, n'est-ce pas, les textes contemporains des événements, les inscriptions, les monnaies, les médailles, les mémoires, les documents archéologiques, la liste est exhaustive. Il réfléchit également sur le nombre de faits qu'il faut citer et leur importance. Donc nous avons une sorte de, le mot me répugne, d'épistémologie, parce que c'est très prétentieux, des sciences sociales qui se dessinent, mais qui est inséparable de sa démarche d'historien ou historienne. Il pose que des faits doivent être utilisés en nombre, qu'il vaut mieux en citer beaucoup, même des faits qui sont relativement peu certains, parce qu'on n'aura jamais la précision absolue et qu'il vaut mieux, n'est-ce pas, conserver une théorie qui est partiellement fausse que de l'écarter complètement. Par ailleurs, très sceptique, il dénonce l'abus des bibliographies complètes et il nous donne des recommandations concernant l'utilisation du document historique. Soit, nous dit-il, le texte d'un auteur X, eh bien, on peut, premièrement, chercher à déterminer ce que pensait l'auteur. Et, dit-il, on sombre dans un bavardage psychologisant. On peut, deuxièmement, chercher à dégager la signification de tel ou tel passage du document en question. Et là, c'est faire œuvre historique. On peut, troisièmement, s'appliquer à comprendre comment le texte a été accueilli par ses contemporains, comment il a été reçu par la postérité. Et c'est un travail qu'il qualifie de sociologique parce que, nous dit-il, c'est aborder le texte du point de vue des croyances, c'est l'examiner en fonction des croyances et des sentiments. Il est remarquable que dans le corpus documentaire, Pareto en vienne à inclure les textes littéraires. Et il considère, par exemple, que pour comprendre l'état d'esprit à la fin du XVIIIe, il faut lire Crébillon. Pour comprendre l'évolution des mentalités au XIXe, il faut lire Les Misérables, qui, nous dit-il, de figures littéraires sont devenues des puissances sociales et célébrées par la bourgeoisie, qu'il va stigmatiser, comme nous allons le voir, à plusieurs reprises. En tout cas, il nous recommande la plus grande prudence dans l'utilisation de ces documents et une anecdote dont Alphonse Karr fait les frais montre que si l'on dispose de documents qui comportent une erreur, eh bien cette erreur peut prévaloir longtemps et ne pas être effacée. Il fait une grande place, bien sûr, aux interprétations, parce que la connaissance directe des phénomènes étant guère pratiquée ou commune ou courante, il faut recourir aux interprétations. Et ici, son propos est émaillé de réflexions très subtiles. Les plus grandes difficultés que nous éprouvons à comprendre les faits d'autres peuples ou d'autres temps proviennent de ce que nous les jugeons avec les habitudes mentales de notre nation et de notre époque. Ce qui est apparemment banal, mais ce qu'il fallait énoncer, et ceci à l'époque où il écrit. Par ailleurs, il aperçoit l'intromission des sentiments, des désirs, de certains intérêts, d'entités étrangères, d'entités métaphysiques ou théologiques, qui font voir les faits autrement qu'ils ne le sont réellement. Enfin, des représentations communes subsiste qu'il est toujours difficile de corriger. Et sa remarque me semble très pertinente, puisqu'elle conduit à faire le partage entre les théories qui sont reçues dans les sciences exactes et les théories qui tentent à prévaloir dans les sciences humaines et sociales. Dans ces dernières, eh bien, la critique a du mal à désagréger un corps théorique, tandis que dans les sciences mathématiques, eh bien, on renonce assez facilement à des hypothèses qui se sont montrées fausses. Il en vient à une classification des propositions qui n'est pas non plus sans intérêt. Il indique que l'on peut soit se contenter de décrire, soit, deuxièmement, mettre au jour des uniformités expérimentales, soit, troisièmement, ajouter quelque chose à ces constats. Et c'est généralement à cet ajout que se livrent la plupart des auteurs. Alors, sa démarche l'amène à distinguer, et ceci est fondamental dans l'analyse par Étienne, les actions logiques des actions non logiques. Il faut éviter ici l'erreur qui consiste à voir dans les actions dites non logiques des actions illogiques au sens courant ou irrationnelles. En réalité, les actions non logiques sont celles dans lesquelles les moyens ne sont pas logiquement ordonnés aux fins. Et Pareto a opéré une distinction fondamentale ici entre les faits économiques auxquels se rapportent des actions logiques Et toutes les opérations sociales, qui sont pour la plupart d'entre elles des opérations non logiques. Et il illustre cela historiquement en recourant aux œuvres d'historiens de l'Antiquité classique, Hérodote et Thucydide notamment, mais surtout aux historiens de son temps, Mommsen, Boissier, Boucher-Leclerc, Michelet, mais aussi, n'est-ce pas, des ethnographes, des juristes. Son érudition est immense, sa curiosité ne l'étant pas moins, et il s'applique à nous montrer, par exemple à propos de la magie, comment la société considérée comme un système de croyances oriente et biaise les représentations. Son étude de la magie est assez remarquable, et aussi de la sorcellerie, ne confondons pas. Pour le débat sur la sorcellerie, il convoque Del Rio, Vierre, Bodin. Bref, son savoir ici est sans faille. Deux exemples nous le montrent. Il critique Duruy pour avoir écrit à propos de l'assassinat de César, l'histoire des Romains. Depuis la fondation de la République, l'aristocratie romaine avait adroitement nourri dans le peuple l'horreur pour le nom de roi. Il reconnaît là le vernis logique des actions non logiques. Et lorsque Duruy ajoute « Si la solution monarchique répondait aux besoins du temps, il était à peu près inévitable que le premier monarque paierait de sa vie sa royauté comme notre Henri IV a payé de la sienne sa couronne », eh bien, son objecteur, Pareto, voit dans les « besoins du temps » une de ces bonnes fictions que l'on veut nous donner pour quelque chose de concret. L'histoire ne donnant pas la preuve expérimentale de la loi suivant laquelle les premiers monarques de chaque dynastie doivent être assassinés. Même chose pour Fustel de Coulanges, pour qui il a une admiration immense, mais Fustel est pris à partie pour ne s'être pas borné à poser dans la cité antique que trois choses sont à l'origine solidement établies, la religion domestique, la famille, le droit de propriété. En affirmant que c'est la religion domestique qui a appris à l'homme de s'approprier la terre, il commet, d'après Pareto, une erreur qui consiste à substituer des relations de cause à effet à des relations de mutuelle dépendance. Et ici, il me semble que Pareto incline à une conception en quelque sorte structurale de l'histoire. Il est vrai qu'il était en relation continue avec Saussure, l'auteur du cours de linguistique générale, et en rattachant la méthode historique à la méthode expérimentale, Pareto estime que seuls valent scientifiquement la mise en évidence des rapports de mutuelle dépendance. Mais on néglige ceci au bénéfice de rapports de cause à effet, et puis surtout, nous dit-il, on majore le rôle dans l'histoire des actions logiques, alors qu'y abondent les actions non logiques. Mais, précise-t-il, il est plus aisé de conceptualiser les actions logiques que les actions non logiques. Pour lui, les travaux historiques ont gagné en précision, mais on retrouve encore les croyances ici, des faits que l'on croit précis nous abusent encore. Et son propos est émaillé de références à des mots historiques, notamment la célèbre phrase de Mirabeau « Allez dire à votre maître », qui n'a jamais été prononcée. Il en vient également à mettre en question ce qu'il appelle les reconstructions intéressées du passé, et ceci en s'appuyant sur texte d'Augustin Cochin, l'admirable texte d'Augustin Cochin, « La crise de l'histoire révolutionnaire, Taine et Hollard », qui paraît en 1909. Dans tous les domaines, d'ailleurs, nous dit-il, les théories pseudo-scientifiques prospèrent, et il dénonce ainsi le matérialisme historique, qui réduit l'histoire à la lutte des classes, le darwinisme social, qui est à ses yeux aussi vide de sens que le son du discours de Rousseau. Nombre de critiques de Pareto sont développés, récapitulés dans une suite de paragraphes, car vous savez que personne n'a oublié que cet ensemble de 1818 pages, formé de 2612 paragraphes, comporte un système de renvoi d'un morceau à l'autre, et la suite de paragraphes numérotés 2156-2169, cette suite est intitulée « L'histoire ». Et il contient cet ensemble des observations qui me semblent assez justes pour son temps. Il relève que l'histoire des dérivations, et dans le langage parétien, les dérivations sont les rationalisations a posteriori, l'histoire des dérivations est davantage pratiquée que celle des résidus. Et par résidus, il faut entendre instinct et sentiment. Donc les historiens s'intéressent aux dérivations, rationalisent après coup, et ne sont pas en prise sur les résidus formés des instincts et des sentiments. Par ailleurs, il remarque que si les histoires ne sont plus théologiques, une certaine métaphysique a été comprimée, eh bien, un certain nombre d'historiens de son temps, donc, se prononcent de façon éthique. Il les appelle les historiens éthiques, et donc s'interrogent sur ce que doit être, sur ce que peut être, une histoire véritablement scientifique. Eh bien, cette histoire ne doit avoir d'autre souci que l'accord avec les faits. Au passage, Égratigne révèle Loisy, Renan. Dans tous les travaux de ces derniers, il voit un assemblage assez suspect de bonnes observations et dérivations étrangères. Il prend en compte notamment l'œuvre de Renan, et l'objection que Renan a pu formuler sur ce qu'est la vérité historique. Pour Pareto, il y a pluralité de vérité. Faut-il renoncer à toute la couleur des récits et se borner à l'énoncé des faits d'ensemble? Se demandait Renan. Ce serait supprimer l'histoire. À quoi Pareto répond que ce serait simplement supprimer le roman historique. Donc il s'agit pour lui d'écarter toujours ce qui est contraire aux faits. Il est presque certain, pour ne pas dire certain au sens vulgaire, que Jules César existait. Il est douteux, pour ne pas dire plus, que Romulus soit également un personnage réel. Alors, et il pose la grande question, comment doit-on écrire l'histoire? Si l'on s'assigne un objectif scientifique, on rapportera des faits. Mais, dit-il, on peut poursuivre d'autres buts. Procurer une lecture agréable en composant un roman historique. On peut impressionner l'esprit du lecteur en adoptant une manière résolument didactique. Viser l'utilité sociale en fortifiant, par exemple, le patriotisme. Donc il est possible que l'historien prenne des libertés avec les faits. Il ne tombera pas sous le coup d'accusations de mensonges. Il ne sera pas pour autant pris en flagrant délit de mensonge. Mais il peut lui-même s'abuser et voir les faits tels qu'il les présente au public. Enfin, pour le « doit-on », comment doit-on écrire l'histoire, les réponses de Pareto me semblent assez modernes. Il se demande quelle est la fonction de la production historique dans l'entretien de la mémoire collective, voire de l'imaginaire social. Quelle histoire, question qu'il pose, quelle histoire doit-on enseigner dans le primaire, le secondaire, le supérieur, ce qui... une fois encore, est très pertinent. Le deuxième point que l'on pourrait évoquer, c'est l'intégration de l'histoire dans la sociologie générale de Pareto. Alors, je me permets ici de présenter ces idées directrices, puisque, ainsi que vous le savez, Pareto estime que le système social, d'un point de vue statique, le système social est pensé sous la catégorie de l'équilibre et que cet équilibre dépend des ingrédients, au sens psychologique, en plus ou moins grand nombre, dans les classes gouvernantes et dans les masses gouvernées. C'est ce qu'il appelle les résidus, parce qu'il veut séparer les noms des choses. Ce qu'il appelle les résidus, qui sont ces ingrédients psychologiques, sont de classes différentes, il en dénombre 6. Les deux premières catégories sont capitales pour comprendre la conception que Pareto s'est formée de l'histoire. D'un côté, l'instinct des combinaisons, de l'autre, la persistance des agrégats. Et sur ces deux catégories se greffe la distinction qu'il nous fournit des R et des S, c'est-à-dire les rentiers et les spéculateurs. Les rentiers qui sont attachés à la propriété immobilière, qui sont plutôt conservateurs, qui se conforment au système normatif, tandis que les spéculateurs, eux, sont les maîtres de la richesse mobilière, et ils sont beaucoup plus ouverts aux innovations, et ce sont, entre guillemets, des progressistes. Ceci est important parce que la lecture que nous propose Pareto de l'histoire nous montre une sorte d'opposition, n'est-ce pas, des uns et des autres, et il illustre ceci avec, dans l'Antiquité, l'opposition de Sparte, les rentiers, et d'Athènes, les spéculateurs, l'opposition au XIXe, par exemple, de la Prusse de Bismarck, et de la France de Napoléon III, la France de la fête impériale. Donc ce sont des catégories qui ont prise sur un matériel historique assez abondant, étant bien entendu que l'équilibre au sens social n'est jamais réalisé, parce que se produisent des modifications dans ces résidus, dans la classe dominante, dans les classes dominantes et dans les groupes populaires. Ce que dégage Pareto de la lecture de l'histoire, c'est, comme chacun sait, une proposition qu'il vérifie constamment, à savoir que l'histoire est un cimetière d'élite. C'est le cimetière des élites. Pour Pareto, et c'est une lecture qui est assez passionnante, qu'on trouve d'abord dans le manuel, et surtout dans le manuel, dirais-je, et ensuite dans le traité. Il nous dit que toute société est hétérogène. Toute société est divisée en deux. Les gouvernés, les gouvernants. Les masses populaires en bas et les élites gouvernementales en haut. Seulement, ce dispositif, structuré par le principe hiérarchique, s'il se reproduit historiquement, eh bien, ne présente pas les mêmes titulaires. Les titulaires changent. Pourquoi ? Et il l'explique longuement. Au moyen de deux scénarios. Premier scénario, qui est assez amusant, si j'ose dire, les sociétés évoluent parce que dans la société se produit un accroissement de la religiosité, une invasion des bons sentiments, de la pitié morbide. Et deuxièmement, l'élite au pouvoir dégénère. Il y a accumulation d'éléments inférieurs dans les classes supérieures. Et enfin, troisièmement, des entrailles de la vieille société surgit une élite nouvelle. Ce scénario global qu'il démontre par ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, avec la faillite de la noblesse et la montée en puissance de la bourgeoisie. Ce scénario est répété au XIXe siècle dans la société, entre guillemets, bourgeoise, dans les sociétés bourgeoises de l'Europe qui lui est contemporaine, où il observe la montée de ce qu'il appelle la marée socialiste et la baisse d'énergie des élites gouvernantes. Et ici, il nous propose un scénario qui est très fin. Il montre que l'élite gouvernementale se divise en deux fractions, ce qu'il appelle les A-alpha et les A-bêta, d'un côté ceux qui résistent, et de l'autre ceux qui sont contaminés par les bons sentiments, qui sont prêts à pactiser avec l'ennemi, bref, qui renoncent à recourir à la force. Car ici, c'est encore une grande leçon que donne Pareto, il s'agit de savoir si l'on gouverne uniquement par la ruse ou par la force, et si l'on veut ou non recourir à la force. Pour lui, la faiblesse des classes dirigeantes au XIXe siècle et d'avoir peur de recourir à la force, de s'en abstenir, d'avoir une sensibilité exquise, on ne veut plus que le sang coule, mais c'est la démission des groupes gouvernants qui se produit. A alpha, A bêta. En dessous, nous avons ce qu'il appelle les B alpha et les B bêta, c'est-à-dire une élite, une contre-élite prête à gouverner, la population. Mais s'ajoute un troisième groupe, ce qu'il appelle les C, et les C composent une partie du corps social, comme l'on dit, qui tantôt appuie un parti, tantôt l'autre. Or, la dynamique historique pour Pareto est très simple. Il y a une relève par les élites bourgeoises, une relève des élites bourgeoises, pardon, par les élites socialistes, parce que celles-ci n'hésiteraient pas à recourir à la force, font valoir qu'elles travaillent pour toute la collectivité et se substituent finalement au A, c'est-à-dire à cette élite gouvernementale qui est corrompue par les sentiments humanitaires. D'ailleurs, Pareto les appelle les humanitaires. Ainsi, chez Pareto, il y a un pessimisme historique qui s'accompagne d'une sorte de pensée de la décadence, de philosophie de la décadence, qu'il en partage en partie avec Mosca, avec Ferrero et avec d'autres, d'ailleurs. Pour lui, les jeux sont faits, sauf en Angleterre et peut-être en Suisse. Tous les autres pays sont gagnés par la marée socialiste et l'accumulation d'éléments inférieurs dans les classes supérieures et d'éléments supérieurs dans les classes inférieures commande une circulation des élites qui est une sorte, pour lui, de loi de l'histoire. Ainsi, les aristocraties ne durent pas. Quelles qu'en soient les causes, il est incontestable qu'après un certain temps, elles disparaissent. L'histoire est un cimetière d'aristocratie. De la diminution de l'énergie dans les élites dirigeantes résultent les débordements sociaux. À la question posée sur l'origine des révolutions, ont-elles lieu plus facilement quand les classes pauvres souffrent la misère ou quand elles jouissent de l'aisance ? Pareto a répondu en citant Tocqueville, « Les révolutions naissent d'une réduction des écarts sociaux et d'abord d'un desserrement des contraintes économiques. » Pour l'auteur du traité de sociologie générale, je le cite, « Les révolutions se produisent parce que soit à cause du ralentissement de la circulation des élites, soit pour une autre cause, des éléments de qualité inférieure s'accumulent dans les couches supérieures. Ces éléments ne possèdent plus les résidus capables de les maintenir au pouvoir et ils évitent de faire usage de la force. » Donc c'est une pensée de la décadence. Il en voit les symptômes dans la tolérance à l'endroit des criminels, l'indifférence que l'on témoigne pour les honnêtes gens, mais aussi l'augmentation du gaspillage avec des finances publiques qui sont utilisées pour financer les bons sentiments, les mesures humanitaires. Telle est la représentation donnée par Pareto d'un avenir historique pensé en termes de circulation des élites et de succession des aristocraties. Le tableau est haut en couleur, mais c'est le noir qui domine. Celui qui l'a brossé ne s'est pas privé d'accabler de sarcasme les sectaires de la religion humanitaire, les champions du solidarisme, les braves bourgeois confits de bons sentiments. Il ne s'est pas privé de dénoncer aussi l'équivoque démocratique et les illusions de l'égalitarisme, de stigmatiser enfin les doctrines sociales qu'il applique et qui s'appliquent à masquer ce fait essentiel, qu'ensemble, hétérogènes, les sociétés humaines sont structurées par un principe hiérarchique indépendamment duquel elle ne pourrait subsister. Des faits historiquement attestés, Pareto aura finalement tiré des conclusions qui ne sont pas sociologiquement correctes.